Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Bonsoir à toutes et à tous, on est content de retrouver ce générique, hein. On va reprendre les bonnes habitudes après ces deux petites semaines d'interruption. Alors on a beaucoup vibré en 2024, on espère le faire également encore en 2025, belle et heureuse année. Merci pour votre immense fidélité. Je vais saluer mon premier invité donc, pour cette année, qui nous fera la rétro d'une année 2024 exceptionnelle. C'est Pierre Lagrube. Pierre, bonsoir.
Ben bonsoir, ouais, bonsoir. Très heureux d'être là. Merci, mais bonne année à tous les auditeurs.
Voilà, donc on va revenir un petit peu sur cette année exceptionnelle 2024.
Vraiment, oui, il y a eu énormément de choses.
Voilà, en grosse partie, ouais, par les Jeux Olympiques et puis Paralympiques. Allez, je vais saluer l'équipe qui va m'accompagner. Je vais d'abord saluer Vanessa, qui je vais souhaiter une bonne année. Bonsoir Vanessa.
Bonsoir, bonne année Philippe, bonne année Alexandre, bonne année Pierre, bonne année à tous, à tous nos auditeurs.
Je sais qu'elle est allée au bout de la nuit pour le 31 décembre. Voilà. Et puis celui qui a été beaucoup gâté par le Père Noël, c'est notre ami Alexandre. Bonsoir Alexandre,
bonsoir,
ça va?
Bonsoir Philippe, bonsoir
belle
à
année.
Tous. Belle année à toi aussi, à tout le monde.
Ouais. Alors on va rentrer dans une année un petit peu impaire, Pierre. Les années impaires, c'est les événements classiques, Dakar, Roland-Garros, Tour de France, championnat du monde d'athlétisme et de natation.
Alors les années impaires, surtout quand il n'y a pas de Coupe du Monde de rugby, ce qui est le cas, c'est une année, ce sont des événements annuels. C'est une année qu'on peut qualifier d'atone. Maintenant, on va voir ce qui va se passer.
Le sport reste le sport.
Il n'y aura pas des gros événements comme les Jeux Olympiques, comme l'Euro, comme la Coupe du Monde, le foot ou le rugby. Mais il y a des championnats du monde d'athlétisme, où il peut y avoir des belles performances. Le Tour de France, ça passionne toujours les gens. Il y aura vraiment de quoi dire en 2025, de toute façon. Ce ne sera pas 2024, mais on verra si 2024 a des prolongements 2025. Pourquoi pas.
Peut-être sur certains sports, certains domaines.
Oui, sans doute.
Allez, en marchant, on devra encore truster les titres de champion du monde.
Oui, mais je pense qu'il gagnera. Mais est-ce que le public sera aussi enthousiaste? Parce que c'est tout un tas de...
Sur les routes du Tour de France, oui.
Du Tour de France, moi j'ai écrit un bouquin là-dessus. Le public, il est complètement, il est complètement passionné. Et quel que soit le résultat, ça fait 40-50 ans qu'on n'a pas eu un Français qui a gagné. Le public est quand même tout le temps enthousiaste.
C'est ce que je disais l'autre jour. C'est une génération qui n'a pas vu un Français gagner le Tour de France, gagner Roland-Garros et être champion du monde de Formule 1. Nous, on les a vus.
On va souhaiter peut-être pour 2025.
Ça va être dur.
Mais
Roland-Garros,
ça va être très dur.
Même Roland-Garros, ça va être compliqué. Puis la Formule 1 aussi. Bon, Pierre, si vous aviez un champion, une championne à mettre sur 2024, ce serait lesquels?
Je vais pas parler de Léon Marchand parce que tout le monde en parle.
Il a tout écrasé.
Mais je vais parler de Tadej Pogacar. Parce que pour moi, c'est le sportif de l'année. C'est le retour à un cyclisme du temps des Dimerck. C'est pas un cyclisme de comptable. Il est tout le temps à l'attaque.
Du début à la fin.
Il participe, il gagne. Mm-hmm. Je prendrais le championnat du monde cycliste où le circuit était taillé pour lui. Il fallait qu'il parte soit à deux tours de l'arrivée de Saint, soit un tour gagné. Ben non, il s'en va sans bord de l'arrivée. Il risque tout. C'est le coup de poitrine, il gagne.
C'est vrai que c'est une nouvelle génération en vélo quand même. C'est pareil pour Van Der Poel, c'est pareil pour peut-être un petit peu moins Vingegaard, mais il y a une génération qui attaque de loin maintenant.
Oui.
C'est moins formaté qu'à une certaine époque.
C'est moins formaté, puis les leaders assument leur rôle, effectivement. Van Der Poel et Van Aert sont des concurrents, comme dans le temps Van Looy et Van Steenbergen. Pogacar, c'est du niveau d'Eddy Merckx. Il prend le départ d'une course, c'est pour gagner. C'est du panache. Donc pour moi, le sportif de l'année, c'est Tadej Pogacar.
Même dans une année olympique
Même et paralympique. Une année olympique. Et bon, je, ouais, je,
parce
je
que ça a été Ça a écrasé tellement le reste.
Ouais, alors, je mets Léon Marchand à part, parce que là, il est au-dessus, parce que 4 médailles d'or.
Il a tout gagné, toutes les distinctions, cette année, il a tout gagné.
Il a tout gagné. On pourrait dire que, pour moi, son plus grand exploit à Léon Marchand, c'est d'enchaîner le 200 mètres papillon et le 200 mètres brasse.
Et cette dernière ligne droite, là.
Oui, et puis c'est quelque chose qui n'a jamais été fait, parce que les seuls qui avaient gagné à une heure d'intervalle de deux épreuves, c'est Mark Spitz en 72 et Cornelia Ender en 76. Ouais. Et c'était des 100 mètres, pas des 200 mètres. Donc ce jour-là, effectivement, puis la piscine était en feu, c'était génial. Donc il y a Léon Marchand, mais juste derrière, je mettrais Pogacar.
Très bien. Bah, en tout cas, nous, on va vous donner le classement annuel de nos confrères de l'équipe. Hein. Donc champion des champions France, Léon Marchand, pas de problème. 1353 points grâce à ses 4 médailles d'or. Il s'impose largement devant donc, Teddy Riner, donc deuxième, 748 points avec ses 2 médailles d'or. Et troisième, c'est vrai que ce sera un petit peu serré entre Riner et Dupont. Le troisième, donc, c'est Antoine Dupont, 730 points. Le quatrième, c'est Félix Lebrun pour le tennis de table, 292 points. Et cinquième, donc Hervic Nappé, le volleyeur, avec donc 257 points. Et pour les femmes, il y avait match entre Cassandre Beaugrand et puis Pauline Ferrand-Prévot. Et pourtant, c'est Cassandre Beaugrand, parce qu'elle a été aussi championne du monde en triathlon, en plus d'être championne olympique, qui s'impose assez largement.
Devant la Tour Eiffel.
1161 points. Devant Pauline Ferrand-Prévot, 974 points, donc deuxième. Troisième, Sirena Samba Mayela, c'est la médaille donc de l'athlétisme, la médaille d'argent, donc avec 402 points. Quatrième, c'est Manon Apiti-Brunet, l'escrimeuse qu'on a vu l'occasion de rencontrer à Demain le Sport, avec 371 points. Et cinquième, c'est une biathlète, Julia Simon, donc 288 points. Bon, voilà. Oui, donc, alors, c'est sûr que ça reste toujours très subjectif. Hein.
C'est subjectif.
Voilà.
Bon, les classements sont assez logiques. C'est écrasé par les Jeux Olympiques, mais c'est normal.
Oui.
Riner, quand même, c'est aussi exceptionnel.
Oui,
il en est à 5 médailles d'or. Ouais, Antoine Dupont.
Il a une longévité, t'es dit,
Riner. En plus.
Ça, c'est sûr.
Et Antoine Dupont, il donne une nouvelle visibilité au rugby. Le rugby avait déjà de la visibilité parce que le top 14, tout est bien organisé, tout est bien filmé. C'est devenu un sport très populaire, mais il manquait la figure d'exception qui est Antoine Dupont.
Ouais, et puis il est sympa, il rigole tout le temps, toujours de bonne humeur. Et puis il a fait une saison exceptionnelle, parce qu'on le verra tout à l'heure dans la rétro, mais il fait
joueur de l'année 2024, je crois, non ?
Champion de France et champion d'Europe de rugby avec Toulouse. Hein. Donc, c'est le joueur.
Il y avait eu des prix du rugby, avait été nommé forcément en saison internationale et saison avec top 14. Doublé,
voilà. Mais il n'a pas été élu meilleur joueur du monde. Parce qu'il n'a pas participé à une grande compétition à 15. Il n'a pas fait le tournoi.
Ah, voilà. Mais c'était
année,
un autre prix.
Mais par le World Rugby, il fallait participer à un grand tournoi à 15.
Alors, les champions des champions France, donc paralympiques, parce qu'il y a aussi maintenant une catégorie paralympique, c'est Alexandre Léauté, le cycliste qu'on a vu très largement s'imposer, notamment à Saint-Quentin en Yvelines, mais pas qu'à Saint-Quentin, également sur la route, avec 810 points. Il a 4 médailles, dont 2 médailles d'or. Le deuxième, c'est Alexis Anquincan, par un triathlon, 748 points, donc il n'y a pas énormément d'écart. Le troisième, c'est notre ami du Cécifoot, Frédéric Villeroux, donc avec 581 points.
Qu'on avait rencontré.
Ouais. Quatrième, Mathieu Bosseredon, donc en paracyclisme, 362 points. Et cinquième, donc le nageur Hugo Didier, donc avec 175 points. Et les championnes des championnes femmes, c'est pas une surprise aussi, on l'avait interviewé et très longtemps vu à Saint-Quentin en Yvelines, c'est Marie Patouillet, donc qui s'est assez facilement imposée, 1171 points, devant Aurélie Aubert, donc de la Boccia, 974 points. Troisième, Emeline Pierre, la nageuse, avec 547 points.
Natation, oui.
Quatrième, Eddy Gauguin, paracyclisme, 245 points. Et cinquième, Djelaki Diallo, donc en paracyclisme. Taekwondo, 93 points. Voilà, donc ça, c'est assez logique.
Delicat Diallo, oui.
Oui, ça s'appelle pas spécialement de commentaires, c'est des grands champions paralympiques qui ont tout le dépassement d'eux-mêmes et qui nous ont fourni un magnifique spectacle avec les Jeux paralympiques. Au-delà du... moi, quand j'ai été voir les compétitions, j'ai oublié le handicap.
Impressionnant, justement, revenir sur Emeline Pierre, que j'ai également rencontrée. Mais alors, impressionnant, j'avais été à la paranatation, elle avait déjà gagné une médaille, puis elle a gagné une médaille de bronze ce jour-là. Vous voyez, là, on était vraiment dans une ambiance incroyable. Et je veux dire, c'est en effet, comme vous le dites, on oublie totalement le handicap. De toute façon, c'est des athlètes avant tout. Et je vais, pour finir, pour conclure un peu sur ça, je vais juste rajouter là, moi, la sportive qui m'a marquée. Alors, elle n'est pas forcément dans les classements, mais c'est Lisa Barbelin, première archère française à être médaillée aux Jeux Olympiques. Et c'était son objectif qu'elle avait annoncé un an avant, lors de la Coupe du Monde, donc de tir à l'arc qui s'était déroulée aux Invalides, un an avant, en août 2023, donc un petit peu, un peu moins d'un an avant. Et elle avait cet objectif, elle était deuxième à l'époque. Donc, c'est une belle concrétisation. Moi j'admire aussi ces sportifs qui arrivent à concrétiser leurs objectifs, même des fois quand le mental est en haut et en bas, mais elle a réussi à aller jusqu'au bout de son objectif, et c'est aussi pour ça qu'elle m'a marqué.
Oui, c'est très intéressant, parce qu'en plus les sportifs, je ne vais pas dire des sports mineurs, mais presque, ils n'ont pas les moyens, quoi. Ils n'ont pas les moyens, on leur donne pendant l'année olympique, mais bon... il faut quand même qu'ils travaillent en général, et donc c'est d'autant plus admirable pour les petits sports.
Alors champion des champions du monde, bon, c'est pas une surprise, hein. Il fait le doublé, comme Zidane en 98, comme Lavillenie en 2014. Ouais. Donc c'est Léon Marchand, natation 1118 points. Il s'impose, tiens, devant Armand Duplantis, le Suédois, donc 778 points, qui a battu à trois reprises cette année le record du monde du saut à la perche, un petit peu comme Boutka faisait dans le passé.
Duplantis, hein. Je trouve que c'est un sportif qui est un peu sous-estimé.
Oui, je suis d'accord.
On ne met pas en avant ses grands exploits.
Lui pourrait être sportif de l'année 2025, cette année.
Il peut, mais... Je pense qu'il va encore nous mettre deux ou trois records du monde.
Justement.
Mais il bat le record du monde en finale des Jeux. Il le bat trois fois. Ouais.
Et puis impressionnant pendant les Jeux. Impressionnant. Et pas que, mais...
Donc le troisième, bon, vous en avez parlé, c'est Tadej Pogacar, donc le Slovène, avec 759 points. Le quatrième, c'est Teddy Riner, 229 points. Et le cinquième, donc Antoine Dupont, 223 points. Donc on voit que c'est toujours très serré entre les deux hommes. On va rappeler que ce vote, c'est fait uniquement par des confrères journalistes du journal L'Équipe.
Hein. Oui, parce qu'il y a trois Français dans les cinq premiers.
Voilà, c'est ça. Normalement.
Mais
voilà.
c'est pas illogique. Non.
Et puis bon, logique aussi, championne des champions du monde, bah, c'est Simone Biles. La gymnase américaine, 1100 points, avec donc trois nouveaux titres olympiques. La deuxième, c'est Summer McIntosh, la nageuse canadienne, avec 580 points. Elle a gagné trois titres en or cette année. Troisième, une autre nageuse, Cathy Ledecky, donc l'américaine, en natation, 552 points, avec les deux médailles d'or. La quatrième, c'est Sinead McLaughlin, l'américaine, l'athlète américaine, avec 257 points. Et cinquième, Zaroslava Maluchik, l'Ukrainienne, en athlétisme, avec 222 points.
Classement tout à fait...
Logique aussi, hein. Simone Biles...
L'histoire de Simone Biles, elle est émouvante, elle est pleine de... Il y a plein de choses. Et là, surtout dans l'auteuse ukrainienne, Maouchik, j'ai eu la chance, ce jour-là, j'étais là à Charletti.
Ah d'accord.
J'étais là sur place, je regardais tranquillement mon meeting de Charletti, et d'un seul coup, elle passe de mètre 10. Le record du monde qui datait de 1987. Ouais. C'était un très beau moment.
Et bah, chez les Paralympiques aussi, donc champion des champions mondes, vous savez, c'est le Brésilien. On a vu beaucoup de reportages, là, sans tête, sans bras et sans jambes. Mais alors, assez impressionnant, Gabriel Dos Santos Aroro, donc le Brésilien en paranatation avec 595 points. Il a eu trois médailles d'or. Le deuxième, c'est Ibar Boki, un Biélorusse paranatation avec 478 points, 5 médailles d'or. Troisième, on retrouve Alexandre Léauté, donc le paracyclisme, 429 points. On va rappeler qu'il a eu donc deux médailles d'or, et puis qu'il a eu aussi cinq titres de champion du monde. C'est pas rien quand même. Hein. Et quatrième, donc Guo Chingen. Alors là, ça a été un petit peu plus compliqué. C'est des Chinois. Donc pour les paranatation, 402 points. Et cinquième seulement, donc Alexis Enquincan en paratriathlon avec 385 points. Voilà.
Il n'appelle pas de commentaire.
Oui. Et puis chez les femmes, alors là, attention, c'est Yu Yang Fiang, une Chinoise, en paranatation, 720 points, une médaille d'or. La deuxième, c'est Sarah Storey, la Britannique, en paracyclisme, avec 720 points. Elle a eu deux médailles d'or. La troisième, c'est Catherine Debronner, en para-athlétisme, avec 634 points, 5 médailles d'or. Quatrième, Sansun Yana, une Thaïlandaise, en para-escrime, 346 points. Et la cinquième, donc, c'est Omara Durand, la Cubaine, para-athlétisme, avec 221 points.
Ce qui est bien, c'est de commencer à voir le paralympique.
Récompensé, c'est la première année. Hein.
C'est la première année qu'ils font le classement. Ça veut dire que les gens commencent à s'intéresser à ces champions.
Ouais,
c'est Ce sera peut-être éphémère, mais il y en a certains qui ça va être un peu durable. Donc, c'est un camp qui commence à être connu d'un peu tout le monde. La voile de Boccia, bon, c'est autre chose, mais aussi, c'est bien d'avoir fait ce classement des champions paralympiques parce qu'ils ne vont pas retomber tout de suite dans l'anonymat. Ils vont avoir une petite postérité.
Voilà, donc on a parlé des Jeux, on va rappeler, hein, on l'a maintes fois rappelé. Vous pourrez d'ailleurs trouver sur notre site internet nous, toutes nos différentes émissions hein, en podcast sur lesquelles on est revenu sur les Jeux Olympiques et Paralympiques. Ouais. Et puis également.
Et les podcasts sur les Jeux Olympiques.
Aussi, bien sûr.
Tu rendiras les étoiles tous les étés, ouais. L'année dernière. C'était, ouais. C'est, pour moi d'ailleurs, j'ai vécu ces Jeux en vrai. C'était juste
hein.
Un. Voilà. Ouais. Non, mais totalement immergé. C'était juste incroyable d'avoir pu être ici et là, d'avoir pu faire tous ces reportages, donc c'était vraiment voilà. Fantastique.
Donc vous pouvez les retrouver ouais. Sur notre site internet, tous les différents podcasts oui. Concernant ces Jeux Olympiques et Paralympiques. Alors on va le rappeler, on en a beaucoup parlé, hein, 64 médailles au total, 16 médailles d'or, 26 médailles d'argent, 22 médailles de bronze, 5e nation au niveau mondial, le record est battu. Et puis pour les Paralympiques, bah, 19 médailles d'or, 28 médailles d'argent, 28 médailles de bronze, ce qui fait un total de 75 médailles. C'est le meilleur résultat depuis les Jeux Paralympiques d'Australie à Sydney ouais. En 2000 et c'est donc la 8e nation au c'est niveau ça. Des médailles. Alors en athlétisme il y a eu quand même d'autres rendez-vous hein. Au championnat du monde en salle on a eu une médaille d'argent, une médaille de bronze. Au championnat d'Europe juste quelques semaines avant c'était à Rome, 4 médailles d'or, 5 médailles d'argent, 7 médailles de bronze, 2e nation au tableau des médailles, donc c'était plutôt positif hein. Même si on peut penser que certains ont peut-être déjà peut-être déjà la tête au jeu hein,
Bien sûr il y en avait ouais. Pas mal qui n'étaient pas là déjà
ouais.
Mais c'était quand même une belle performance ouais. De l'athlétisme français. Malheureusement, qu'on voit quand on passe au niveau supérieur aux Jeux Olympiques, ben il y a plus personne. Ouais. Y a plus personne. C'est pas le même niveau, c'est tout. Mais c'est pas grave. Hein.
Alors ensuite, on en a parlé. Donc trois records du monde cette année pour Armand Duplantis, le Suédois, qui à l'arrivée au total pour l'instant est recordman du monde avec 6m26. Et puis on a eu d'autres records du monde, hein, puisque Yaroslava Maouchika, donc avec 2m10, a amélioré le record du monde du saut en hauteur. Hein, et puis également amélioration du record du monde du 1500 féminin par Faith Kipyegon, la Kenyan en 3:49.04. Et puis record du monde du marathon féminin, faut pas l'oublier quand même aussi pour Ruth Chenenkitch, c'est difficile à dire, en 2h09:57.
Et on voit que le sport féminin est en grande progression.
Oui,
Et ça, je pense que ça va être durable. Et on le voit même au niveau des performances, parce que courir le 1500 mètres en moins de 3:50. C'est quoi le marathon en moins de 2h10 ouais. Il y a beaucoup d'hommes qui sont champions et qui aimeraient bien le faire. Hein. Le sport féminin, surtout sur les longues distances, est en train de rattraper le sport masculin. Ça peut être, dans 50 ans, peut y avoir un niveau d'équivalence.
Allez, en natation, donc c'est une médaille d'or, 4 médailles d'argent, une médaille de bronze pour l'équipe de France au championnat du monde. Au championnat d'Europe, 10 médailles, 2 or, 3 argent, 5 bronzes, sans ceux qui étaient retenus naturellement pour les Jeux Olympiques. Et il y a aussi des championnats du monde en petit bassin, 3 médailles d'argent, 2 médailles de bronze. Et puis pour les natation, championnat d'Europe, 22 médailles, 7 médailles d'or, 8 médailles d'argent, 7 médailles de bronze. Est-ce que c'est quand même nécessaire des championnats d'Europe ou du monde pendant une année olympique? Parce qu'on a connu certaines années où on ne faisait pas de championnat du monde quand il y avait les Jeux olympiques. Hein.
Alors,
même les championnats d'Europe en athlétisme, hein, c'est pareil. Hein.
Ouais. L'athlétisme, ouais. Les championnats d'Europe 2024, c'est ridicule.
Oui,
d'avoir des championnats d'Europe,
ouais.
Une année olympique, c'est ridicule. C'est ridicule. D'ailleurs, avant, c'était les années impaires.
Oui.
Maintenant, c'est les années paires. Mais alors là, en 2024, ça a servi d'entraînement.
Oui, c'est ça. C'est un petit peu dommage. Oui. Justement, on en parlait, cette répétition des compétitions sportives dans tous les sports. Hein. À un moment, il y a des risques de blessures et de grosses saturations. Alors, en judo, il y avait les championnats du monde aussi. 5 médailles, une médaille d'or, une médaille d'argent et 3 médailles de bronze. Au championnat d'Europe, 6 médailles pour la délégation française. 1 or, 2 argent, 3 bronze. Et puis, tiens, ça fera plaisir, le Paris Saint-Germain, ils ont gagné la Ligue des Champions, Mick. grâce à Teddy Riner. Donc, nouveau titre pour Teddy Riner. En escrime, au championnat d'Europe, il y a eu 8 médailles, 4 or, 1 argent, 3 bronzes. Deuxième nation au tableau des médailles pour l'équipe de France d'escrime. Et puis, tiens, en triathlon, on va rappeler qu'il y a eu 1 médaille d'argent chez les hommes avec Léo Bergère et 1 médaille d'or, 1 médaille de bronze chez les femmes avec Cassandre Beaugrand et Emma Lombardi, hein, qui a terminé 3e de ce championnat du monde. Et pour les paralympiques, il y a eu 6 médailles d'or. Il y a eu 6 médailles, pardon, 2 or, 3 argent et 1 bronze avec un nouveau titre donc pour Alexis Enquincan. Et auparavant, championnat d'Europe paralympique, 4 médailles d'or pour la délégation française. Ça vous inspire un commentaire ? Non ?
Non, pas spécialement.
Mais... c'est bien, mais oui. on retombe sur la problématique d'avant. Est-ce que des championnats du monde et d'Europe, quelles que soient les disciplines, les années olympiques, championnats en judo, c'est les Jeux olympiques, le reste, on en parle pas. Hein.
Ouais, c'est ça.
De toute façon, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure en off c'est sur ça. Les préparations de saison. Évidemment que dans une saison olympique, on va prioriser les Jeux, mais c'est sûr que faut toujours gérer hein, les entraînements, savoir pour ne pas arriver cramé, comme on le disait, à la fin de la saison ou à un moment X ou Y. Et c'est toujours... après, c'est toujours bien. Puis ça peut être aussi l'occasion pour d'autres...
Un titre, ça reste un titre.
Non, mais bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est...
Champion du monde, mais bon.
Ce qui peut être intéressant, peut-être en saison olympique, c'est aussi la possibilité pour d'autres athlètes qui vont peut-être aller faire ces compétitions et peut-être que les favoris entre guillemets n'iront pas, de pouvoir aussi briller et de pouvoir aussi amener des médailles. Et c'est là aussi que c'est intéressant de voir aussi la relève, un peu tout ça. En tous les cas, c'est ce que ça m'inspire sur certains sports et c'est intéressant en ce sens. Mais évidemment, dans une saison olympique, on va prioriser les Jeux. Il ne faut pas non plus, arriver totalement out sur les Jeux olympiques, sur cette compétition qui est majeure. Voilà.
Allez, en tennis de table, donc au championnat du monde par équipe, 2 médailles, 1 argent, 1 bronze pour nos équipes de France hommes et femmes. Hein. Et puis, on a eu au championnat d'Europe 3 médailles, 2 or, 1 bronze, avec notamment en individuel un titre pour Alexis Lebrun et en double pour les frères Alexis et puis Félix Lebrun. Eux aussi, ce sont des révélations quand même. Hein. Ils ont aussi médiatiquement, maintenant, on les reconnaît partout. Hein. On a vu l'occasion d'interviewer la maman pendant donc Demain le Sport. C'est vrai que leur vie a complètement changé. Hein.
Ah, mais c'est étonnant parce que c'est étonnant. Ils ont une histoire, ils sont sympas, ils se ressemblent, ils ont des lunettes. ils arrivent à mon.
Ils s'appellent comment en Chine, au fait ?
Oui, ils avaient un surnom,
les
là.
Les binoclars, non ?
Un truc comme ça, oui.
Ils sont sympas et ils font apprécier le tennis de table au grand public. Mm-hmm. Et du coup, il y a plein de mômes qui ont voulu se mettre au tennis de table. Mais malheureusement, il n'y a pas les infrastructures.
Ah, voilà.
C'est le problème de nouveaux sports.
Je voulais faire un aparté sur eux. Parce que moi, pour moi, c'est eux mon coup de cœur de l'année 2024.
Ah, t'as le droit, mais il y en a eu tellement de coups de cœur.
Pas que eux,
mais
c'est pour ça. Il y en a eu tellement de coups de cœur. Il y a qu'à en avoir choix, quoi. Pas que eux, mais parce que je trouve qu'en fait, ils ramènent vraiment un vent de fraîcheur, mais pas que dans le tennis de table, mais dans le sport français en général.
En marchant, c'est pareil, ils ramènent un vent de fraîcheur.
Oui, mais c'est pour ça. C'est encore différent. Parce qu'il y a un storytelling autour d'eux. Ils sont frères. L'autre, il va battre son frère, etc. Ils se retrouvent contre les Chinois. Enfin, je trouve que c'est vraiment un. Oui. C'est vraiment une grosse performance qui n'est pas soulignée. Et puis ça ramène une énorme médiatisation et
Tiens, ça me fait penser
l'exposition sur ce sport.
On parlait des podcasts qu'on peut retrouver donc, sur notre site. Tout à l'heure, on en parlait. Et la maman, on a posé la question quand on l'a interviewée, comment elle se comporte
quand
ces deux garçons se rencontrent. Et elle arrive à rester complètement objective. Bon.
C'est mieux pour les deux. Hein.
Ouais,
et pour elle aussi.
C'est fou. S'il y en a qui pleure, il faut consoler l'autre.
Bah, c'est ça. Ils ont l'air de bien s'entendre.
Oui, je crois qu'il faut. Hein.
Ils se poussent vers le haut, quoi, vraiment.
Et on lui a demandé s'il n'y avait pas quand même indirectement un petit peu de concurrence. Apparemment, non. Les parents arrivent à juste ça.
Mais ça peut être un problème. Ça
peut être un problème. Ils sont très jeunes, il faut le souligner.
Oui, ça peut être un problème.
Mais ils sont quand même compétiteurs avant tout. Voilà. Félix Lebrun, le plus jeune, quand il a perdu au championnat de France contre son frère, il pleurait. Hein. Il pleurait d'avoir perdu. Hein.
Justement, qui rigolait, la maman qui...
qui se retrouve au milieu.
Et puis l'autre qui pleurait, comme ça, vous réécouterez nos podcasts. Hein.
C'est indispensable.
Voilà. Allez, je voulais qu'on parle aussi un petit peu des autres sports, hein, très brièvement. Badminton, gymnastique, on ne va pas oublier qu'il y a eu au championnat d'Europe 2 médailles, 1 argent, 1 bronze. Et au championnat d'Europe de gymnastique, on n'oubliera pas quand même qu'il y a eu 4 médailles, dont 1 or et 3 bronzes, avec le titre de Colline de Villard en saut de cheval. Et puis tiens, je vais parler d'un domaine qui intéressera Vanessa, elle y était. On ne va pas oublier quand même qu'un des temps forts pour nous, ça a été aussi les internationaux de France, de badminton, donc à l'Adidas Arena.
Tout à fait, c'était vraiment génial d'avoir pu y être, de vivre cette ambiance. Et justement, dans l'Adidas Arena qui avait été ouverte...
quatre semaines avant.
Ouais, voilà, exactement. Et, aussi impressionnant de voir à quel point le badminton, ça vous tient en haleine. Pour moi, qui n'avais jamais été en vrai dans
c'est
une
un super
position...
Sport, de...
ouais, exactement. Super, super. Et c'est, pour moi, ça a été une super découverte de pouvoir le voir comme ça dans une grande compétition internationale. Et vraiment, et ça m'a donné le goût d'ailleurs de suivre.
Il y a des championnats du monde, hein. Faudrait que tu y ailles.
Hein. Ah, je vais y aller.
Ouais. Voilà. Alors, tiens, je vais rappeler les vainqueurs. Alors, attention, hein, attention à la prononciation. Il n'y a que des Chinois.
Hein. Alors, oh là, oui.
Shiyuki chez les hommes, oui. Han Chi-yung chez les femmes. Ranki Reddy Chieti en double homme. Bon, là, c'était pas chinois. Qin Chen et Zi Fan en double femme. Et Don Ping et Zhang Zi en double mix. Voilà. Donc, ce sont eux qui ont remporté les différentes compétitions dans leur catégorie.
Et d'ailleurs, sur les internationaux de badminton, comme aux Jeux Olympiques, nous, Français, entre guillemets, n'ont pas eu énormément de chance parce qu'ils se sont retrouvés dès les premières, dès les huitièmes de finale face à des adversaires très coréens, des Chinois. Voilà. Et ce qui m'a marqué aussi, c'était la présence de pays comme l'Inde, donc aux internationaux de badminton. C'est aussi une nation qui est très, très importante dans ce sport. Et d'ailleurs, le badminton a été ramené donc par des soldats anglais, pour la petite histoire, la petite anecdote rapidement, par des soldats anglais, ils avaient vu ça en Inde, et donc dans la ville de Badminton, d'où coup le nom de ce sport. Voilà d'où ça vient.
Allez, on va marquer la pause musicale. Ensuite, on va rentrer dans ce qu'on après les disciplines donc olympiques d'été. On va rentrer maintenant dans les disciplines olympiques d'hiver, après la pause musicale.
J'ai du succès dans mes affaires, j'ai du succès dans mes amours, je change souvent de secrétaire. J'ai mon bureau en haut d'une tour, d'où je vois la ville à l'envers, d'où je contrôle mon univers. Je passe la moitié de ma vie en l'air, entre New York et Singapour, je voyage toujours en première. J'ai ma résidence secondaire dans tous les Hilton de la Terre. Je peux pas supporter la misère.
Moi, es-tu heureux?
Je suis pas heureux, mais j'en ai l'air. J'ai perdu le sens de des affaires. J'ai réussi, j'en suis fier. Au fond, je n'ai qu'un seul regret. Je fais pas ce que j'aurais voulu faire.
Qu'est-ce que tu veux, mon vieux? Dans la vie, on fait ce qu'on veut, pas ce qu'on veut.
J'aurais voulu être un artiste. J'aurais voulu être un acteur pour tous les jours. Changer de peau et pour pouvoir me trouver bon.
voir le monde à refaire, pour pouvoir être un anarchiste et vivre comme un millionnaire. J'aurais voulu être un artiste. Mmh. Fadoulé, fadoulé. Pour pouvoir dire pourquoi j'existe.
La vie de tous les sports à travers ses associations, ses secrets, ses coulisses. Retrouvez-la naturellement chaque lundi de 19h à 20h30 dans Mon Paris Sport avec Philippe Carnu et toute son équipe.
Oui, eh ben, effectivement, donc c'est le rendez-vous tous les lundis et c'est la 110e hein, ce soir. Donc vous voyez, pour cette première l'année 2025, donc on va
joyeux
encore,
anniversaire.
Ouais, oui. On va encore vous souhaiter une belle et puis heureuse année. Et puis merci, merci, merci pour votre immense fidélité. Alors, les Jeux d'hiver, les disciplines olympiques d'hiver, on va d'abord rappeler la bonne nouvelle. La France a obtenu l'organisation des Jeux olympiques de 2030 hein, avec la candidature donc acceptée des Alpes françaises. Ce seront les 4e JO de l'histoire pour d'hiver pour la France. Et puis, bah, je vais vous donner donc les résultats en Coupe du Monde. On va rappeler que c'était une année suisse. Odermatt chez les hommes et Gut Verani donc chez les femmes ont remporté le classement général final sur l'ensemble de la saison. Amundsen, la Norvégienne et Ringins, le Norvégien et Ringins, l'Américaine, ont remporté celle du ski de fond. Et en Coupe du Monde de biathlon, eh ben, c'est celui qui écrase la compétition, Beau, hein, qui, donc chez les hommes, et Vitozzi chez les femmes, remporte le classement final de la saison. Et puis on va rappeler quand même au championnat du monde de biathlon, parce que c'est le sport qui traditionnellement rapporte la moitié des médailles à chaque jeu d'hiver. 13 médailles pour des championnats du monde, 6 médailles d'or, 1 médaille d'argent et 6 médailles de bronze, avec notamment 4 médailles d'or pour Julia Simon, ce qui ont fait, c'est pour ça qu'elle était, c'est pour ça qu'elle était bien placée dans le classement des sportifs femmes de l'année, première nation au tableau des médailles. Et puis on va pas oublier aussi Chloé Trespeutsch qui a gagné le classement final de la Coupe du monde de snowboard. Allez, on en vient à un sport qu'aime bien Vanessa, ce sont les championnats d'Europe de patinage artistique. On a quand même un champion d'Europe.
Hein, Adam Siaimfa. Ouais,
voilà. Et championne d'Europe femme, donc c'est Hendrix.
Luna Hendrix, ouais, tout à fait, la Belge. Ouais.
L'Allemande.
La Belge.
C'est une Belge, ouais. Oui. Et ensuite, Beccari-Garizé en Italie.
Le couple Beccari-Garizé en artistique couple.
Et Guignard-Fabry.
Et les Italiens en danse sur glace, tout à fait.
Donc le couple mix et danse sur glace sont champions et championnes d'Europe.
Voilà. Et donc ça, c'était sur les championnats d'Europe 2024.
Et les championnats du monde, oui. Bah,
championnats du monde, évidemment.
C'est Malini.
Malini, l'exceptionnel Ilia Malini, qui a aussi remporté donc, la finale du Grand Prix à la fin de l'année 2024. Et troisième, Adam Siaimfa, qui avait fait une incroyable remontée. Donc troisième des championnats du monde de l'année dernière. On verra sur cette année ce que ça donne, puisque là, Adam Siaimfa, il revient d'une blessure doucement. Il y a les championnats d'Europe à la fin du mois. Donc, on va rester prudent sur tout pronostic, l'essentiel étant qu'il soit bien. Et on verra donc pour ce que ça donnera en 2025.
Et puis Sakamoto, donc.
Kaori, la japonaise, troisième titre d'affilée.
Chez les femmes.
Oui, tout à fait. Ouais.
Et donc, pour les autres couples, donc c'est un couple canadien qui a gagné. Oui. Et puis un couple américain qui a aussi gagné en danse sur glace.
En danse sur glace, Madison Chock et Evan Bates, tout à fait.
Et puis donc, c'est Deschamps en...
Dudek, avec une petite histoire assez particulière, puisque Dina Stelato Dudek et Maxime Deschamps, pour elle, juste rappeler que quand elle a gagné ce titre, elle avait 40 ans. Incroyable histoire parce qu'elle a arrêté pendant très longtemps. Elle a eu un enfant aussi. Et puis elle est revenue à la compétition avec quand même du succès. On notera aussi que donc depuis les championnats du monde 2022, les Russes sont absents et que ça redistribue aussi les cartes, surtout dans toutes les disciplines en fait. Peut-être un peu moins chez les hommes où l'Américain et les Japonais était quand même un petit peu plus fort que les Russes. Mais sur la catégorie dames, où les Russes étaient largement dominantes, évidemment, c'est une opportunité pour les autres pays de venir. Et pareil sur la catégorie couple et aussi même sur la catégorie danse sur glace, où là, c'est un petit peu plus partagé. Mais, voilà. Mais chez les dames et en couple, clairement... avant, c'était dominé par les Russes.
Voilà, on en vient maintenant au cyclisme sur route et cyclisme sur piste. Alors, on parlait de Pogacar, donc il a remporté son troisième Tour de France avec 6 victoires d'étape hein, devant Vingegaard et Evenepoel. 3 victoires pour les Français, c'était mieux que les 2 dernières précédentes années. Et on va rappeler donc Guirmay, l'Africain, donc pour le maillot vert, Evenepoel, maillot blanc, Carapaz, maillot à poids et super combatif, et l'UAE, donc... pour le classement par équipe, donc ce sont les autres lauréats de ce Tour de France 2024. Et puis, donc il a gagné, on va rappeler quand même, Pogacar, le Tour d'Italie, le Mondial sur route, Liège-Bastogne-Liège, le Grand Prix de Montréal et le Vélo d'Or. Voilà, c'est l'équivalent du Ballon d'Or.
Hein. Oui, oui. Ouais, bien sûr.
Voilà. Et puis, on ne va pas oublier aussi le doublé Tour des Flandres de Paris-Roubaix avec
Van der Poel.
Oui. Belle génération aussi. Hein. On
belle
en parlait
génération.
Justement.
Et puis, ce qui est bien, c'est que les champions s'impliquent. Et y a, je mettrais Vingegaard à part parce qu'ils vivent avec le Tour de France, mais ils sont un peu sur tous les terrains. Bon, Van der Poel, il ne gagnera jamais le Tour de France, mais il va... Et il va aller aussi sur Milan-San Remo, Pogacar, eh bien, il va partout. Il va peut-être un jour s'attaquer à Paris-Roubaix, pas cette année, parce que c'est trop risqué. Mais...
Il est trop maigre.
Il faut un entraînement différent, mais il le fera. Il le fera, et c'est là qu'il n'a pas gagné. Il a même gagné le Tour des Flandres. C'est une année de cycliste assez riche. Assez riche.
Allez, par contre, sur la piste, ça a été un petit peu moins bon. Hein. Il y a eu au championnat d'Europe, il y a eu 8 médailles d'or, 8 médailles, 2 or, 3 argent, 3 bronzes, donc 4e nation au tableau des médailles. Donc ça, c'était plutôt positif. Par contre, ça s'est moins bien passé pour les championnats du monde. C'était juste après les Jeux Olympiques, hein, où ça n'avait pas été non plus énormément brillant. Hein. Une seule médaille avec Benjamin Thomas, une seule médaille d'or. Et il y a eu que 2 médailles dans les championnats du monde, même pas de médaille d'or, une argent et une bronze.
Non, mais le cyclisme sur piste en France est un sport sinistré. Ça remonte à une quinzaine d'années. Là, ils sont en train de remettre tout à plat, mais ça s'est cassé de la figure complètement.
Ouais.
Ah ouais. Complètement.
Ouais. Et puis, bah, on va quand même rappeler, par contre, que c'était beaucoup mieux pour les Paralympiques. Hein. 25 médailles, 8 or, 8 médailles d'or, 9 médailles d'argent et 8 médailles de bronze. Ça, c'était pour les championnats du monde sur route. Et puis, sur la piste, eh bien, il y a eu 19 médailles, 12 médailles d'or, 5 médailles d'argent et 2 médailles de bronze. Donc, grâce à nos Paralympiques, bah, ça a été un petit peu mieux à travers la route et puis la piste. Et puis, on ne va pas oublier qu'en VTT, Victor Koreski a remporté et donc a été et premier de la Coupe du Monde VTT en cross-country short track et deuxième en cross-country. Et il confirme donc sa deuxième place au JO derrière le Britannique donc Pidcock. On sait qu'il avait été médaille d'or, donc médaille d'argent donc aux Jeux Olympiques hein, en VTT.
Oui.
Voilà. Allez, on en vient au sport mécanique et à la voile. Ça va te plaire, Alexandre. Max Verstappen qui remporte un 4e titre de champion du monde de Formule 1. McLaren l'emporte chez les constructeurs. Thierry Neuville, le Belge, lui, décroche son premier titre mondial en rallye, c'est Toyota qui l'emporte chez les constructeurs. Et puis, comme en 2023, Ferrari remporte la mythique épreuve des 24 heures du Mans avec l'équipage Nelson, Molina et Fiocco. Et puis, on va rappeler quand même, c'est presque d'actualité, que l'année dernière au Paris-Dakar, c'est Saint-Scrouls qui ont gagné en auto, Brabec en moto, Andourar, l'Argentin en quad, Soultré Bonnet en SSV et Masik Tomášek et Zvanda, le Tchèque, en camion. Voilà donc pour le Dakar, t'as un commentaire ?
Bah, le Dakar, je vais en parler tout à l'heure avec plus de ça, la deuxième
mais
étape
de Tidro.
Mais surtout, moi ce qui m'a vraiment intéressé, c'est la Formule 1.
Oui.
Et Max Verstappen, on l'a suivi tout au long de l'année, c'est pas surprenant qu'il ait gagné. Ça en devient même agaçant, j'ai envie de dire.
Ouais.
Mais
ça a été un peu plus passionnant cette année quand même.
Vraiment beaucoup plus passionnant, surtout au niveau des constructeurs. Et c'est McLaren qui finit par remporter le titre. Mais l'année prochaine, on va vraiment être attentif à Ferrari parce qu'on sait que Lewis Hamilton, du coup, il a rejoint Charles Leclerc. Et moi, je mets une petite pièce sur Charles Leclerc. Je pense qu'il terminera au classement des pilotes premier. Donc on verra bien.
Ouais. Pierre, la Formule 1, vous suivez ?
Oui, c'est la Formule 1, c'est assez intéressant. Moi, c'est un petit peu agaçant la domination de Verstappen. Mais encore cette année, ça a été. Oui.
Après, le problème de ces sports-là, c'est la technologie.
C'est la technologie.
Si on a une bonne voiture, fatalement.
Il n'y a pas de mystère. Si on a une bonne voiture, on gagne, mais il y en a qui ont une bonne voiture et qui gagnent.
Oui, oui, quand même. Oui, mais enfin, si on est bon et qu'on n'a pas une bonne voiture, ça sera compliqué.
Mais quand on est bon, on finit par avoir une bonne voiture en allant finir ailleurs.
Voilà. Et puis en moto, Martin, l'Espagnol, a gagné en moto GP. Ei Oguna, le japonais, en moto 2 et Alonso, le colombien, en moto 3. Ils sont champions du monde dans leur catégorie. C'est assez spectaculaire, les Grands Prix moto. Hein.
Ah, c'est vraiment.
Il y a de la lutte quand même.
Très spectaculaire. Ouais. Et puis, j'ai vraiment aimé ce Grand Prix de moto en général, avec Bagnaia, Jorge Martin, etc. C'était un vrai mano à mano. Donc, c'était vraiment intéressant.
Suzuki a fait le doublé, donc 24 heures du Mans Moto Boldor, grâce à leur trio Masson, Black et Linfoot. Et puis, on va parler aussi de voile, en citant que Charles Caudrelier a remporté à 50 ans l'Arkea Ultimate Challenge. C'est le tour du monde en solitaire et en multicoque à la voile, en 50 jours, 19h, 7 minutes 42 secondes, et que Emirates Team New Zealand a conservé la Coupe de l'América. Allez, un petit mot sur l'hippisme et puis la boxe. On va quand même rappeler qu'il y avait deux grandes épreuves hippiques régulièrement, donc Idaho de Tillard, drivé par Clément Duval d'Estaing, s'impose logiquement dans le Prix d'Amérique. Et puis Blue Stocking, monté par le Britannique Rossin Ryan, remporte lui le Prix Qatar Arc de Triomphe. Et puis on parlait de boxe. Il y a un boxeur qui a dominé la saison, c'est l'Ukrainien Usyk. Il reste toujours invaincu. Et il est champion du monde unifié en poids lourd, en WBC et WBO. Et il était champion du monde en IBF, mais il a laissé récemment son titre.
Je pense que Usyk, c'est le seul boxeur actuel qui pourrait figurer dans un palmarès international, pas au niveau d'un Mohamed Ali ou d'un Frazier, mais il peut être pas loin des 10 meilleurs poids lourds de l'histoire.
Allez, en tennis, donc on va revenir sur les principaux vainqueurs des Grands Chelems. En Australie, victoire de Sinner chez les hommes et Sabalenka chez les femmes. À Roland-Garros, Alcaraz, l'Espagnol qui gagne, et Sanchez, la Polonaise, qui remporte son troisième Roland-Garros. À Wimbledon, Alcaraz fait le doublé, il s'impose donc chez les hommes, et Kecikova, la Tchèque, chez les femmes. On va rappeler quand même que c'était le quatrième tournoi du Grand Chelem pour l'Espagnol. Et à Flushing Meadows, c'est Sinner qui avait gagné donc en Australie, qui fait le doublé et il gagne donc chez les hommes. Et Sabalenka, la Biélorusse, vainqueur chez les femmes. À noter qu'il y a eu quand même une victoire française, c'est Roger Vasselin qui, associé à l'Allemande Sigmund, a remporté le double mix à Roland-Garros. Voilà. Et puis l'Italie qui a remporté qu'on appelait jadis la Coupe Davis.
Ça s'appelle toujours Coupe Davis.
Coupe Davis. Elle a fait le doublé. Il gagne la Coupe Davis et l'ex-Fed Cup chez les femmes qui s'appelle maintenant la Billie Jean King. Et l'équipe de France qui tombe quand même en deuxième division.
En référence à la Coupe Davis.
Quelle rétrogradation. Mais grosse saison de tennis. Grosse saison à Alcaraz. Et puis Nadal aussi.
Et on va pas oublier quand même que
Zverev
va gagner donc à Bercy face à Humbert en 2-7. Et puis voilà, donc c'était. Et puis qu'il y a eu aussi
des Jeux Olympiques
au Masters, Sinner qui a gagné avec Coco Gauff, donc qui l'a emporté chez les femmes.
Voilà. Et j'aimerais aussi rendre un petit dernier hommage à Nadal parce qu'on sait que c'était sa dernière.
On va en parler. Ouais. On va citer tous les sportifs qui vont mettre un terme à leur carrière.
Sur le tennis, c'est quand même une petite restriction. C'est les affaires de dopage.
Forcément.
Sinner, se rater dans le cyclisme, il a pris deux ans.
Oui, c'est ça. Allez, un petit mot de golf quand même, parce qu'il ne faut pas oublier, il y a eu quand même un Français, Mathieu Pavon, qui est le fils d'un ancien grand joueur de foot, pro, qui est devenu le premier Français à gagner une épreuve PGA de golf. Et puis, on a eu Dan Bradbury, l'Anglais, qui a remporté l'Open de France, disputé à Saint-Quentin en Yvelines. L'Open de France, c'est le Roland-Garros du golf. Voilà. Allez, rugby et foot US. On en parlait du rugby tout à l'heure en off. Et puis, un petit peu avec Alexandre Dupont. On va quand même rappeler On va quand même rappeler que l'Irlande reste la meilleure équipe d'Europe. Elle a gagné le tournoi Destination. L'équipe de France a terminé quatrième. Je crois pour la quatrième fois depuis que Galtier est là, deuxième en 2020, deuxième en 2021, deuxième en 2023 et deuxième en 2024. Il n'y avait que le grand chelem de 2022.
Oui, mais bon, on ne gagne pas toujours. Et l'Irlande a une superbe génération. qui s'est complètement planté en 2023 parce qu'il avait, voilà, il avait vraiment les titres.
Quel match quand même, hein.
Ah, quel match contre les All Blacks, mais ils avaient vraiment
les titres. Hein.
Ils avaient vraiment les titres pour gagner la Coupe du Monde, et curieusement, ils n'ont jamais dépassé les quarts de finale en Coupe du Monde.
Ouais.
Et ils ont une belle génération, un beau rugby. Le rugby, je reviendrai aussi sur le top 14 de la Ligue des Champions.
Oui, on va en parler. On va en parler. Hein. Avant, on va juste donner le résultat des féminines, parce que c'est l'Angleterre qui a écrasé le tournoi des destinations féminines. Hein. C'est son sixième grand chelem consécutif. La France, naturellement, elle, comme les hommes, termine deuxième. Et puis, on va justement parler des Coupes d'Europe, puisque Toulouse a fait le doublé. Ils ont gagné leur sixième Coupe d'Europe de rugby face au Leinster, 31-22 après prolongation. Les Sharks, eux, l'Afrique du Sud, remportent le challenge européen, ce qui est la Ligue Europa en foot. Et puis, saison exceptionnelle pour Toulouse, quand même, qui décroche un 23e bouclier de Brennus, quand même. Hein. 23e titre de champion de France. Ils ont écrasé Bègles-Bordeaux 59-3. C'est une saison incroyable, quand même, Pierre. Hein. Justement, le top 14.
Avec Toulouse, de toute façon, c'est que des saisons incroyables. Hein. Toulouse domine le rugby depuis les années 90 et propose une continuité, surtout. C'est, les générations se succèdent, il y a un projet de jeu. Il y a tout ce qu'il faut pour Toulouse. Mais il y a d'autres. Il y a de la concurrence et le top 14.
C'est le championnat le plus relevé. C'est pour ça qu'ils gagnent des Coupes d'Europe, les clubs français.
Ah, c'est le championnat le plus relevé et c'est le championnat le plus populaire.
Et comment vous expliquez que Toulouse arrive toujours à rester au top au-delà de l'intérêt pour
c'est
le rugby?
C'est une ville de rugby.
Voilà, exactement. C'est qu'il y a une assise culturelle.
C'est une ville de rugby, c'est culturel.
Oui, ville de rugby, mais.
C'est le sport roi là-bas.
Voilà. C'est une ville de rugby, puis il y a tous les patelins à côté.
Ouais, c'est ça. Oui.
Du coup, ça attire forcément tout le monde. Bien sûr.
Dès qu'il y en a qui sont bons, c'est le stade toulousain.
C'est
le stade toulousain, puis il y a une belle formation, il y a une belle école.
Aussi,
il y a une tête d'affiche qu'on en parlait tout à l'heure.
Antoine Dupont.
Antoine Dupont, oui.
Antoine Dupont, et puis Romain Ntamack.
Oui, oui.
Malheureusement, qui était blessé, qui nous l'a bien manqué.
Allez, un petit mot de foot US, quand même, c'est la finale du Super Bowl. Hein. Ce sont les Kansas City qui avaient conservé leur titre, donc face à San Francisco, hein, les 19ers, c'est ça. 25-22 après prolongation, troisième titre en 5 ans. Voilà.
Qu'on retrouvera cette année pour 2025 en février.
Oui,
donc très bientôt.
Ça sera je crois qu'on les recevra le 10 février dans l'émission. Voilà. Allez. On va au BHV maintenant, rubrique basket en volley. C'est ce qu'on dit, voilà. On va simplement rappeler donc en basket quand même que le champion de France, c'est Monaco chez les hommes et Villeneuve-d'Ascq chez les femmes. Victoire de Dijon pour les hommes en Coupe de France et du célèbre club de Bourges donc chez les femmes. Que Paris, il ne faut pas l'oublier quand même, ils ont gagné l'Eurocoupe de basket face à Bourg-en-Bresse avec 2-0. C'est la 6e victoire d'un club français dans une Coupe d'Europe de basket. Par contre, défaite en finale pour les filles de Villeneuve-d'Ascq, battue en Ligue des Champions face à Fenerbahçe, 106-73. Et puis, on va rappeler quand même le 18e titre en NBA pour les Boston Celtics. Et puis, Panathinaikos, les Grecs qui remportent la Ligue des Champions chez les hommes en disposant très facilement du Real Madrid, 95-80. Tu as un petit commentaire ?
Pour les Celtics, c'est 100% mérité. C'était une saison régulière qui était maîtrisée de bout en bout. Donc c'est les favoris qui l'ont remporté. Et ensuite, pour le Paris Basket, moi je suis vraiment content. Parce que
c'est pas fini, on espère que ça va.
Voilà, c'est ça. C'est que ça annonce vraiment que du positif pour la suite. Même si c'est un petit peu plus compliqué en ce moment en Europe. On en parlera tout à l'heure. Et voilà, et Monaco aussi, c'est grosse saison. Et dans la continuité aussi. Rien de spécial à rajouter, mais c'est intéressant.
Et le Paris Basketball qui est né dans le 13e.
Oui, bien sûr. Et allez, on va passer au hand maintenant. Parce qu'il ne faut pas oublier l'équipe de France masculine qui avait décroché un 4e titre de championne d'Europe en battant le Danemark 33-31 en début d'année après prolongation. C'est quand même le sport le plus titré. Hein. 3 titres olympiques, 6 titres de champion du monde et 4 titres de champion d'Europe.
Il y a une génération de fous. Non,
mais il se renouvelle à chaque fois. C'est un sport qui se renouvelle
Le handball masculin, ça débute en 1992.
Médaille
de bronze au jeu de Barcelone, alors que la France était en 3e division. Et depuis,
ça a été le premier gros titre mondial.
Et
rappelez que c'est l'année dernière, la Paris Basketball s'est offert le luxe de battre l'Olympiakos.
Mais ça c'était pour le basket.
Excusez-moi.
Voilà. Et il y a eu moins de réussite pour nos femmes en handball, puisque donc comme en 2022, l'équipe de France s'était terminée au pied du podium, 4e d'un championnat d'Europe remporté par la Norvège. Alors 31-23 face au Danemark. Les Danoises, elles sont finalistes chez les femmes Et puis les hommes sont finalistes chez les hommes. C'est quand même incroyable. C'est le 10e titre pour l'équipe norvégienne. Alors au niveau français, bon, le PSG chez les hommes et Metz chez les femmes ont décroché les titres de champion de France et championne de France. En Coupe de France, c'est Nantes qui gagne chez les hommes et Metz, donc qui fait le doublé en gagnant aussi la Coupe de France chez les femmes. Et puis en Ligue des Champions, tiens, ça fera plaisir à Alexandre, c'est Barcelone qui est champion d'Europe donc chez les hommes et Gia chez les femmes. Quatrième place quand même pour les Messines qui arrivent au pied du podium. Et puis, on va aussi dire qu'en volley, donc c'est Saint-Nazaire chez les hommes et Levallois chez les femmes qui ont décroché les titres de championne de France et championne de France. En Coupe de France, doublé Nantais, Nantes-Rézé qui gagne chez les hommes et Nantes chez les femmes. Et en Ligue des Champions, donc Trente chez les hommes et Kone Siago chez les femmes remportent les titres européens et doublé aussi, donc doublé italien. Et puis on ne va pas oublier les la victoire de l'équipe de France de volley qui a remporté la Ligue des Nations 3-2 face au Japon quelques semaines avant de conserver son titre de championne olympique.
Ça aussi, ouais. le titre des volleyeurs, c'est aussi un des exploits majeurs.
Ah ouais, comment on peut expliquer quand même, comment on peut expliquer que les sport-co, d'une façon générale, sauf peut-être le hockey sur glace, marchent bien en France ? Parce que volley, basket, bon, le basket, il manque encore un petit truc.
C'est au sommet. Hein,
mais il manque des titres maintenant. Il y a des places, mais c'est bien.
Oui, compliqué.
Non, mais par rapport au hand ou au volley, je sais bien, c'est compliqué. Il y a les Américains et les Américaines, mais ils sont régulièrement placés, je sais bien.
En basket, les hommes.
Il y a 4 titres de champion d'Europe en basket quand même. Hein.
Oui, mais bon, le basket, le seul titre intéressant, c'est les Jeux Olympiques.
Oui, bien sûr.
Le reste.
Après, il y a les Grecs, il y a les Serbes. En basket, c'est toujours un petit peu compliqué. Et même, bon, chez les femmes, il y a deux. Je crois qu'il y a 2 titres de championne d'Europe.
Oui, mais alors, chez les hommes, il y a les Américains qui sont au-dessus. Mm-hmm. Et chez les femmes, c'est encore pire. Parce que quand on regarde la finale des Jeux Olympiques entre les États-Unis et la France, à un moment...
Pas passé loin. Hein.
On pense qu'elle va gagner. Et pour tous les observateurs, c'était, si la France, l'équipe de France féminine gagnait les Jeux Olympiques, c'était le plus grand exploit de l'histoire du sport.
Parce que
les Américaines sont imbattables.
Allez, se retrouver en finale face aux États-Unis, c'est quand même magnifique.
Allez, on va finir donc cette rétro par, pas complètement, mais bon, tous les grands événements, par la page foot, naturellement, un Espagnol, naturellement, il gagne l'Euro face à l'Angleterre 2-1, après avoir éliminé l'équipe de France sur le même score en demi-finale. Triste quand même pour le jeu, on a fait ses émissions sur l'Euro,
mais on
s'est pas très régalé quand même.
On s'est même pas emballé.
On s'ennuie, on est des pros, donc on a fait l'émission.
Et moi, je me suis pas ennuyé parce que j'ai été aussi à recueillir les réactions des supporters et c'était quand même bien.
Et puis on va rappeler que les féminines espagnoles ont gagné la Ligue des Nations en surclassant l'équipe de France 2-0, 8 mois donc après leur titre de championne du monde. Et puis on ne va pas oublier qu'en Argentine c'est le doublé quand même, puisque Lionel Messi et l'équipe argentine a gagné une nouvelle fois la Copa América, 1-0 après prolongation contre la Colombie. Autre événement suivi sur mon Paris FM, la CAN, avec la victoire de la Côte d'Ivoire, qui après un parcours incroyable s'est imposée en finale 2-1 face au Nigeria. L'Afrique du Sud est 3e et la République démocratique du Congo 4e. Et puis quand même, pas oublier que le Brésil a gagné la Coupe du Monde de futsal en battant son frère ennemi, l'Argentine, 2-1. Voilà, l'équipe de France qui finit au pied du podium 4e. Sinon, au niveau des clubs, on va rappeler Real de Madrid donc, qui décroche une 15e Ligue des Champions en battant Dortmund 2-0. Le Paris Saint-Germain éliminé par cette même équipe de Dortmund en demi-finale. Barcelone qui remporte la Ligue des Champions femmes en dominant facilement l'équipe de Lyon 2-0. Et puis Bergame qui a surclassé les Verkusen en finale de la Ligue Europa 3-0. Et puis premier titre pour les Grecs avec l'Olympiakos qui donne à la Grèce sa première Coupe d'Europe en gagnant donc la Ligue Europa Conférence. Face à la Fiorentina, 1-0 après prolongation. Et puis, on n'oubliera pas que le Real, ils ont gagné aussi la Super Coupe d'Europe contre Bergame, 2-0. En France, c'est le Paris Saint-Germain, naturellement, qui a remporté son 12e titre de champion de France et sa 17e Coupe de France en battant donc Lyon en finale. Donc, il gagne le 12e titre de champion de France. Et c'est Lyon, qui remporte son 10e titre de championne de France chez les femmes. En Coupe de France, le PSG s'impose et remporte sa 15e Coupe de France en battant Lyon 2-1 en finale. Victoire, par contre, du PSG en Coupe de France féminine devant Fleury 1-0. Et puis, très brièvement, on va rappeler que à l'étranger, donc c'est Manchester City qui est champion d'Angleterre, Liverpool Coupe de la Ligue et Manchester United Coupe d'Angleterre. En Allemagne, doublé de Leverkusen, un exploit quand même assez phénoménal. Champion d'Allemagne et vainqueur de la Coupe d'Allemagne, invaincu, 28 matchs de gagnés, 6 matchs nuls, donc saison invaincue. Et puis en Italie, donc c'est l'Inter qui est champion et la Juventus qui gagne la Coupe d'Italie. Et en Espagne, donc le Real Madrid champion et l'Atlético de Bilbao qui remporte la Coupe. Et puis en Portugal, c'est le Sporting de Lisbonne qui est champion et Porto donc qui remporte la Coupe. Et puis à noter quand même que Rodri est Ballon d'Or de, France Football 2024 devant Vinicius et Bellingham et que Lookman est lui Ballon d'Or africain. Et puis il y a un petit événement quand même local dans le coin. On l'a aussi vécu, le stade Boutroux qui est devenu le stade Pelé. Voilà. Oui. Au mois de juin, avec la visite de Gianni Infantino, le président de la FIFA.
Oui, bah là, tu as fait un gros, une grosse rétrospective de l'année. C'était vraiment intéressant. Ballon d'or
c'est pas fini.
Hein.
On va être très, très complet parce qu'on va rappeler quand même qu'ont été réélus dans leur fédération Philippe Diallo pour le foot, Florian Gris pour le rugby, Philippe Bana pour le handball, Michel Callot pour le cyclisme. Oui. Par contre, nouveau président à la Fédération française de basket, donc Jean-Pierre Unclair, Gaël Rivière pour l'handisport, donc le membre de l'équipe de France de cécifoot, capitaine, Messing. Et devient président de la Fédération française de handisport.
Succède.
Et puis Vincent Labrune. Et réélu à la Ligue de football professionnelle. Voilà. Et puis Brett Robinson, un Australien, est élu président de la World Rugby, c'est-à-dire la fédération internationale. Il bat de deux petites voix Abdelati Benazi. Voilà. Donc,
cette année, il me semble qu'il y a bientôt les élections du CIO, si je ne dis pas de bêtises.
Oui, ça sera en 2025.
2025, c'est
fin d'année, on aura l'occasion d'en reparler, parce que je pense que ça va être chaud quand même. Hein.
Serré. Thomas Barr laisse le siège. Donc,
allez, on va marquer la deuxième pause musicale. Ensuite, on va retrouver notre ami Stéphane, le journal des sports d'Alexandre. Et puis, on finira cette rétro par les fins de carrière. Hein. Et puis on aura un petit hommage
un
aussi aux sportifs et sportifs qui nous ont quittés. Allez, on y va, la deuxième pause musicale.
Open your eyes in the morning sun. I feel you touch me in the pouring rain, and the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze, keep me warm in your love, then you softly leave, and it's me you need to share.
Cause we're living.
Voilà, allez, on va enchaîner maintenant sur le foot, un tout petit peu plus tôt que d'habitude. Hein. Comme on avait été assez court il y a trois semaines, eh ben on va un peu se rattraper. Bonsoir Stéphane et bonne année.
Bonsoir Philippe, ouais. Bonne année à tous les auditeurs bien sûr, puis aussi à vous tous là, sur le plateau, toutes et tous. Merci.
Voilà, en tout cas une année qui commence très bien pour le Paris Saint-Germain, hein, qui va être champion d'automne la semaine prochaine, on va en parler dans quelques minutes, mais qui a déjà remporté son premier trophée, et donc le trophée des champions, je crois que c'est son 13e, c'est son 3e trophée ouais. des champions, 15 Coupes de France, et donc 13 trophées des champions, en battant quand même assez difficilement Monaco hier soir 1-0.
Ouais, tout à fait, en sortant un match correct, mais pas non plus un gros match, quoi, le Paris Saint-Germain, bah, c'est sûr que sur une finale comme ça, ça rééquilibre forcément les choses. Hein.
Alors, Paris Saint-Germain qui va être champion d'automne, hein, parce que Paris Saint-Germain qui a très, très bien maîtrisé et sa fin d'année 2024 et donc ce début d'année 2025. Fin d'année 2024 en battant Lyon 3-1 lors de la 15e journée et puis en allant gagner déjà en match avancé à Monaco 4-2. Donc, ils vont être champion d'automne. Voilà. C'est l'équipe qui survole le championnat. Ils ont 7 points d'avance, hein, Stéphane.
Oui, tout à fait. Bah, ils étaient champions d'automne déjà. Oui. Ça fait déjà plusieurs journées qui sont avant même d'aller à Monaco. Hein, à la 15e journée, je crois. À la 15e journée, je ne me rappelle plus qu'est-ce que c'était. Bah, leur victoire contre Lyon. Oui. Après avoir battu Lyon, ils étaient champions d'automne parce qu'ils avaient 7 points d'avance à ce moment-là sur les seconds, Monaco et Marseille. Et puis, plus que 2 matchs à jouer. Donc, ils étaient à la 15e journée, c'était champions d'automne. Mais c'est vrai que c'est anecdotique, mais bon, c'est toujours ça de pris, quoi.
Alors, le deuxième, ça sera Marseille. Marseille qui avait concédé le nul face à Lille lors de la précédente journée 1-1 et qui hier a écrasé, bon, sans surprise, le Havre 5-1. Et puis, il y aura Monaco derrière. Monaco qui est, en plus de sa défaite face au Paris Saint-Germain, donc dans cette 16e journée, avait laissé échapper des points lors de la journée précédente en faisant un 0-0 à Reims. Stéphane ?
Allô.
Oui, en laissant échapper donc des points à Reims.
Ouais, pardon. En faisant un 0-0, ouais, tout à fait. Ouais. Oui, tout à fait. En fait, bon, il y a le Paris Saint-Germain qui va bien. Puis bon, on peut pas dire non plus que derrière, on a une énorme clé que les adversaires sont vraiment là où on les attend, parce qu'ils ont ça, puis il y a autre chose aussi, plus de un mois de décembre très très compliqué pour Monaco, quoi, ils devraient pas être là où ils sont aujourd'hui, je pense, quoi.
Alors on va rappeler que le PSG donc est en tête avec 40 points devant Marseille, on l'a dit, 7 points donc de retard pour les Marseillais, 33 points, 3e Monaco 30 points, Lille, bah du coup Lille qui a marqué un petit peu le pas quand même ce week-end en concédant le nul à domicile contre Nantes 1-1. Lille maintenant se voit rejoindre par Lyon à la 4e place avec 28 points. L'équipe lyonnaise donc qui s'est imposée face à Montpellier 1-0. Et puis juste derrière arrive Nice qui est 6e avec 27 points. Nice qui reste sur une série de matchs sans défaite quand même, hein, Nice.
Ouais, bon après. Nice, moi personnellement, je ne crois pas trop à cette équipe. Ouais. Je trouve que c'est vraiment très très laborieux. Ils sont sixième déjà. On peut même dire que sixième.
Ils ont battu Rennes 3-2 hein, dans cette journée.
Voilà, ils ont battu Rennes 3-2.
Ils étaient allés faire 2-2 à Montpellier lors de la journée précédente.
Voilà, 2-2 à Montpellier. Ils sont peut-être toujours invaincus, mais 2-2 à Montpellier, qui bien que ça soit que Montpellier ne mérite certainement pas, je pense, sa dernière place, quoi. C'est pas malgré tout, c'était un peu une contre-performance quand même. Ensuite, la victoire contre Rennes, elle est quand même très. Moi, je trouve qu'elle est assez heureuse quand même, quoi. Donc, avec une énorme boulette de Steve Mandanda sur le deuxième, je crois, ou le troisième.
Qui est sur le départ d'ailleurs, hein, qui est sur le départ.
Ouais, donc je trouve que c'est un peu tiré par les cheveux, c'est pareil, du coup justement ils sont là parce qu'ils profitent de Lens qui va pas où je trouve Lens, quoi, vraiment pas du tout bien. Mm-hmm. Et puis voilà, quoi, donc puis derrière après ça se bat.
Alors justement, on va en parler, hein, parce que les positions sont quand même très serrées. 14e Angers et Saint-Etienne avec 16 points, 16e Nantes 15 points, 17e Le Havre 12 points, il n'y a que Montpellier qui est légèrement décroché, donc 18e.
Ouais, voilà, avec tout à fait. Ouais. Voilà, mais je crois que Le prochain match, quand même, c'est Montpellier-Angers, je crois. Donc là, c'est vrai que c'est le moment ou jamais, quand même, pour Montpellier, pour repartir de l'avant. Et c'est, moi, je trouve ça un peu malheureux parce que c'est vrai que quand on regarde bien, quand on regarde les matchs, quand on regarde le déroulement des matchs, cette équipe, elle ressemble absolument pas à un relégable. Vous avez oui. quelques équipes quand même de. C'est pas souvent on disait bon bah eux c'est sûr ils vont descendre chaque année. Il y en a une qui est à la traîne quand même, qui ressemble pas à grand chose, qui a du mal et tout. Bah, Montpellier c'est pas le cas. Hein. Même là ils perdent à Lyon, ils méritent jamais, ils méritent de perdre à Lyon, jamais de la vie ils méritent de perdre à Lyon. Comme a dit Jean-Louis Gasset après le match. Hein, oui. Même avec un match nul, on était déçus. Alors, je ne vous parle pas d'une défaite, quoi.
Ouais. On va quand même rappeler aussi que le Havre, ça devient de plus en plus critique, battu donc largement à Marseille 5-1. Ils avaient été aussi largement battus lors de la journée précédente chez eux, donc par Strasbourg 3-0. C'est compliqué, Strasbourg qui finalement se maintient dans ce ventre mou du championnat.
Ouais, tant mieux parce que c'est vrai que quand on voyait ce match Strasbourg-Auxerre et le classement surtout et puis ce qui pouvait se passer, on se disait quand même qu'il valait mieux que Strasbourg gagne parce qu'on aime bien tout le monde aime quoi. Je pense que beaucoup de gens aiment bien le jeu pratiqué par les Alsaciens, qui est l'équipe la plus jeune de Ligue 1, qui est une équipe très très jeune, mais qui montre plein de choses intéressantes. Donc c'est vraiment très intéressant d'avoir cette équipe en Ligue 1. Et ça serait dommage que s'il y avait eu des fêtes, ils étaient menés 1-0 au début par Auxerre. S'il y avait eu des fêtes, on pouvait craindre même quand même peut-être pour la place de l'entraîneur, quoi. Peut-être pas aujourd'hui, mais très vite, quoi. Donc, et ce serait embêtant de ne pas laisser ce genre d'entraîneur, parce que je pense que lui, c'est quelqu'un qui donne du spectacle, et ses matchs, ils sont intéressants, hein. Ils sont intéressants à regarder, quoi. Donc,
Auxerre battu à Strasbourg, donc 3-1, et après avoir concédé le nul lors de la précédente journée contre Lens, de partout. La Ligue 2, par contre, ça y est, c'est fait, on a atteint la première moitié de championnat. Et on parlait du Paris FC justement il y a quelques semaines en se disant que rien n'était joué. Bah, la preuve, hein, puisque le Paris FC qui avait été battu lors de la précédente journée à Lorient 2-0, eh bien, va virer en 3e place, donc à mi-championnat. On va quand même rappeler que le Red Star avait battu Grenoble 3-1, Annecy-Metz 0-0, Dunkerque avait battu Caen 3-1 et que 3 avait écrasé Martigues 4-0 et Martigues est allé gagner justement dans cette journée de championnat, le dernier donc est allé gagner à Charletti 2-1 devant le Paris FC. Annecy a gagné à Ajaccio 2-1, nul entre Guingamp et Dunkerque 1 partout, Metz qui a battu et Pau match nul 0-0, Laval qui a battu Lorient 2-0, donc finalement Lorient n'a pas pu faire le trou. Et puis à noter que le Red Star est allé gagner à Rodez 2-0 et que 3 va un peu mieux, ils ont gagné à Amiens 3-0, donc Lorient je l'ai dit en tête avec 33 points devant Dunkerque 32, 3e le Paris FC 31 et 4e Metz 30 points. Il y a 3 points d'écart entre les 4 premiers.
Ouais, tout à fait. Avec la prochaine journée, il y a Lorient, Lorient-Metz. Hein, donc, il faudrait que le Paris FC arrive à se reprendre un peu. Et l'équipe qui est catastrophique et qui est vraiment très mal.
Bien, là, depuis un moment. Ouais, ouais. Ah bah oui, quand ils sont 16e, hein, ils se battent pour le maintien.
Ça va mal à Caen. On en revient, voilà, ça n'a pas trop de rapport ce que je veux dire avec le sportif, mais on en revient un petit peu sur l'éternel débat, l'impact des supporters sur l'équipe, sur la direction, quel rôle ils ont et tout ça. C'est vrai qu'il y a eu, si ça ne vous a peut-être pas étonné, dans la dernière journée de championnat, je crois, il y a eu des banderoles hostiles à Kylian Mbappé dans les tribunes de Caen parce que les supporters supportent mal qu'il ait.
Il a racheté le club, oui.
Oui,
et... de la direction est mis à la porte Nicolas Seub qui est un peu une légende, la légende du Stade Malherbe, quoi. Mais bon, quelque part, vu les moyens qu'il y a, vu les joueurs qu'il y a, c'est vraiment catastrophique de voir cette équipe à la 16e place de Ligue 2, quoi. C'est voilà, encore club un peu mythique qui risque de se retrouver en national, quoi.
Oui, alors justement, hein, pour l'instant, donc en bas de classement, il y a Grenoble 3 et le Red Star avec 21 points. Ça va un tout petit peu mieux pour 3 et le Red Star. 14e, Rodez Clermont avec 16 points. Et puis on l'a dit, Caen 16e avec Ajaccio 15 points. Et que Martigues qui revient un tout petit peu, 18e avec 12 points. Donc là aussi, ça va être serré hein, pour des clubs comme Caen, mais aussi pour d'autres ex-Ligue 1 comme Clermont et puis comme un club que tu aimes bien comme Rodez.
Ouais, tout à fait. Bon, Rodez, Ouais, tout à fait, ça va être dur. C'est bizarre de voir des clubs comme Clermont, oui, qui a changé d'entraîneur déjà en plus. Quand on se retrouvait là, maintenant, comme on disait, Rodez, ils avaient pris 3 points après 7 journées. Hein, donc finalement, on les retrouve, à l'époque, on nous aurait dit qu'ils vont être 14e à la 17e journée, à la mi-saison. Je pense que beaucoup auraient signé dès demain. Maintenant, c'est vrai que c'est dommage pour eux, en tout cas, qu'ils ont raté cette opportunité contre le Red Star. Ouais. Avec 3 points de plus, ils seraient vraiment dans le milieu du tableau, tranquille. Et oui, ouais, ça, largement tranquille dans le milieu du tableau. Donc, c'est vrai que c'est un peu dommage, quoi. Bah, ils vont lutter. De toute façon, eux, ils ont l'habitude. Hein, ils vont lutter, je pense, jusqu'à la fin pour se maintenir. C'est plus logique de voir Rodez lutter pour se maintenir avec un budget à 7 millions d'euros qui est ou 8, qui est le plus petit budget de Ligue 1, de Ligue 2, pardon. C'est plus logique de les retrouver là que quand, par exemple.
Ouais, ouais. Allez, en national, on fera un petit point. Il n'y avait pas de journée de championnat, mais on va quand même rappeler qu'après 15 journées, eh bien, même le Paris Atlético se bat aussi pour éviter une nouvelle fois la descente. Paris Atlético qui avait été tenu en échec par Nîmes 1-1. Versailles a été battu à Bourg-en-Bresse 1-0. Et Nancy, par contre, bien survole et domine le championnat en ayant battu Orléans 1-0. Donc Nancy et Boulogne-sur-Mer en tête avec 27 points. Devant Orléans, 3e, 25. Nîmes est 13e avec Versailles, 15 points. Il devance d'un tout petit point le Paris Atlético, 15e, 14 points. 16e, Villefranche-en-Beaujolais. En Beaujolais, 13 points. Et 17e, Châteauroux, 9 points. Ça va être difficile pour nos clubs franciliens. Hein. Aussi bien le Paris Atlético, mais Versailles aussi. Hein.
Versailles aussi. Bah, de toute façon, on l'a déjà assez dit ici. Ouais. Hein, le championnat national, c'est un championnat très, très, très compliqué. Ouais. Très, très compliqué. Et bon, on va voir, mais ça veut... On est à la moitié. Il n'y a même pas de tendance. Je pense qu'il n'y a même pas de temps, bon, sauf si Nancy, bien sûr, on sait que Nancy va certainement retrouver la Ligue 2, ouais, ce qui serait une bonne chose.
Oui, hein, c'est une ville de foot, hein, Nancy.
Ouais. Voilà, puis ils ont rappelé leur coach emblématique, hein, Pablo Correa, qui est à la tête de cette équipe et qui a fait des belles choses avec Nancy. Donc, on peut penser que ça va le faire. Maintenant, voilà, c'est très, 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 très compliqué. Mais pour revenir sur la Ligue 2, oui, je voudrais dire aussi qu'il y a Ajaccio qui est 17e, ouais, et que je ne parierai pas ma chemise aujourd'hui qui termine la saison.
Oui, je sais qu'il y a des gros problèmes financiers, ils risquent de ne pas pouvoir effectivement terminer la saison. Bon, dans le foot féminin, on parlait donc du Paris Saint-Germain qui avait gagné chez les hommes un 13e titre de champion de France, Lyon qui va être champion d'automne, Lyon qui avait chez les filles gagné un 17e titre de championne de France et qui vire en tête à mi-parcours puisqu'elle survole elle le championnat féminin. C'est lyonnaise, elles avaient, ne l'oublions pas, donc écrasé Nantes 5-1 lors de la précédente journée. Paris FC avait battu Dijon 4-0 et PSG était allé gagner à Saint-Etienne 3-0. A noter la victoire de Fleury à Montpellier 1-0. Donc Lyon en tête avec 31 points devant le Paris Saint-Germain 28 points. Troisième le Paris FC 24 points et quatrième 20 points. Et quatrième Dijon 20 points. Et puis les lyonnaises aussi qualifiées pour les quarts de finale de Ligue des Champions. Hein, après leur victoire, leurs deux derniers succès à Galatasaray 6-0 et juste avant les fêtes devant Wolfsburg 1-0. Elles finissent largement en tête de leur groupe avec 18 points. Devant Wolfsburg, deuxième, 9 points. Troisième, l'AS Roma, 9 points. Et quatrième, Galatasaray, 0 points. Ça veut dire que cette équipe de Lyon, pour l'instant, comme le PSG, elle a bien fini son année et elle a remarquablement bien commencé.
Oui, tout à fait. Elle s'installe encore pour la Ligue 1, c'est même si on sait qu'avec les playoffs tout peut arriver, mais pour la Ligue 1 c'est bien parti. Puis surtout pour la Ligue des Champions, je pense que leur objectif prioritaire maintenant à l'OL, c'est la Ligue des Champions, hein, toute façon.
Bien sûr.
Hein.
Bien sûr.
Donc, on va voir maintenant après, comme on l'a déjà dit, hein, on l'a déjà dit ici, la grosse surprise, c'est Dijon, hein, qui est quatrième. Donc, pour l'instant, qualifié pour les playoffs. Et voilà, donc bon, faut voir ce que ça va donner, mais c'est sûr que ça serait assez exceptionnel. Le PSG, leur, leur objectif, c'est de ne pas terminer. Bon, et s'ils peuvent passer premier devant Lyon, ils le feront, mais leur objectif, c'est surtout de ne pas passer quatrième. Ils ont 8 points d'avance sur 10.
Ouais, ça va.
Pas passer quatrième pour ne pas, pas affronter Lyon. Maintenant, la chance de passer éventuellement devant Lyon serait de les recevoir, les recevoir en finale des play-offs.
Ouais. Juste un petit mot, on n'en avait pas parlé il y a 3 semaines. On connaît donc le groupe des Françaises à l'Euro 2025. Ça va être très très compliqué. L'Angleterre, ouais. Les Pays-Bas et le Pays de Galles. Donc championnat d'Europe du 2 au 27 juillet. Ça va être très très compliqué pour nos bleues féminines du foot. Voilà. Et je voulais qu'on revienne un tout petit peu quand même sur ce qui était aussi le dernier événement 2024 foot avant Noël, la Coupe de France. 32e de finale, il y a eu quand même 4 clubs de Ligue 1 qui sont tombés, Le Havre, Montpellier, Auxerre et Saint-Etienne. La hiérarchie a été bousculée. C'est passé ric-rac pour certaines équipes, comme Nice, Toulouse ou le Paris Saint-Germain qui s'est imposé au tir au but 4-3 face à Lens. Et puis d'autres ont assuré l'essentiel, comme Lyon, Brest ou Lille. Voilà, donc bien dans la tradition de la Coupe de France et en dehors du Paris Saint-Germain, il n'y a plus d'équipe d'Île-de-France puisque Bobigny a été battu par Angers 1-0 et que Nantes est allé gagner à Drancy 4-0.
Voilà, tout à fait, bah oui. Oui, maintenant, dans les clubs, dans les clubs éliminés de
beaucoup de matchs classés, quand même.
Ouais, de Ligue 1, ouais, il y a surtout, on va dire, Le Havre et Montpellier. Ouais, parce que, Auxerre a perdu, certes, c'était à domicile, mais il a perdu contre Dunkerque.
Ouais, qui est une belle équipe de Ligue 2, ouais, qui joue la montée.
Voilà, qui est deuxième en Ligue 2, mais puis la grosse bévue de quatre Coupe de France, c'est la défaite de Montpellier. 4-0 au Puy, je crois que c'est 4-0, ouais, c'est ça le score. 4-0, le Puy qui est en National 2, c'est une humiliation, vraiment, mais du temps de Louis Nicolin, ça ne serait pas passé comme ça, je pense.
Oh, il aurait poussé une sacrée colère, Loulou. Il aurait poussé une sacrée colère.
Il aurait privé de vacances ses joueurs, je me rappelle d'images de lui dans les couloirs où il disait « Ah, ils sont plus contents, là, ils pensent qu'à partir en vacances, mais ils ne vont pas y aller en vacances, ils ne vont pas en avoir des vacances et tout. » Bref, ça aurait été chaud avec cette histoire en plus. Savanier, bon, maintenant il n'y a plus de valeur, il n'y a plus aucune valeur et tout dans le monde du foot. Quand on voit Greenwood qui va signer à l'OM, quand on voit plein de joueurs auxquels on laisse passer plein de choses, là on voit Montpellier qui veut essayer de rappeler Ben Yedder. Alors, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'écouter les sons, les vidéos de Ben Yedder avec ses team féminine là, dans ces déboires juridiques, je veux dire, c'est assez affolant, quoi. Ouais. Et puis le Savanier, l'affaire Savanier qui se fait insulter par quelqu'un parce qu'il est dernier du classement et qu'ils sont nuls et qu'ils sont en train de perdre et qui leur répond bah oui, avec 210 000 euros par mois ça passe. C'est quand même vis-à-vis de supporters et tout, c'est quand même assez inadmissible comme propos.
C'est ce qu'on n'aime pas dans le foot en ce moment. Allez, on dira quand même que...
Non.
Il y a 30 ou 40 ans, on en est témoin avec Stéphane, c'était pas comme ça. Ouais. Voilà, 16e de finale, donc ce sera Reims, Monaco, Marseille, Lille et Brest-Nantes. Hein, ça sera les têtes d'affiche de la Ligue 1, Stéphane, pour les 14 et 15 janvier.
Voilà, encore des clubs de Ligue 1, donc ils vont forcément passer à la trappe. Mais c'est sûr que voilà, ce qui prouve, c'est comme le Paris Saint-Germain, hein, qui aurait très bien pu perdre à Lens, d'abord sur le terrain, parce que Lens a fait un bon match, Paris aussi, et puis au tir au but. Maintenant, c'est le tour de l'OM, hein, contre Lille, ça va être un match très très compliqué. Je ne serais pas surpris que ça se joue encore au tir au but. Hein,
ouais.
Donc,
Stéphane?
Oui, comment?
Vas-y. Que ça se joue au tir au but.
Alors, je serais pas étonné qu'un Marseille-Lille se joue au tir au but, quoi. Ou sinon, je donnerais même lui le favori parce que ça va y avoir une énorme pression sur l'OM, quoi. Qui va absolument gagner un titre. Cette équipe, en plus, le mérite. Ils font des bons résultats et tout. Donc, il y a une énorme pression. Puis quand on connaît. Genesio dans son sens tactique et sa faculté à faire déjouer les équipes et à mettre des plans en place, ça va être très 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 accroché, quoi. Donc c'est pas gagné. Puis je vous dis, la pression, elle va jouer parce que on va l'entendre toute la semaine, hein, qui va précéder, que les Marseillais, il faut qu'ils gagnent un titre, qu'ils n'ont pas gagné un titre depuis 14 ans, qu'ils peuvent gagner un titre, c'est la Coupe de France. Et donc, ça va être très, très... ça va être bouillant, ce match va être bouillant et il va être aussi très, très intéressant.
Très bien, Stéphane, merci en tout cas pour ce long point foot. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine.
Hein. Ouais, journée, okay, bah...
Semaine assez calme, hein, ça sera juste une journée de championnat. Hein. Voilà.
Ouais. Allez. Ouais, bah, exactement, okay. Juste ça. Donc, allez, bonne soirée à tous.
Bonne soirée.
Merci, bonsoir, Stéphane.
Allez, puis, voilà. Bye, bye.
Merci, Stéphane. Et puis, on rappellera que, justement, il nous parlait de Marseille. Hein. Marseille a largement donc, battu Saint-Etienne dans ses 32e de finale 4-0. On enchaîne maintenant sur les autres infos sportives, Alexandre.
C'est ça, Philippe. On commence ce premier journal des sports de l'année avec un point sur le Dakar. La deuxième partie de l'étape 48 heures a permis à Yazid El Raji de Toyota de signer le meilleur temps devant Nasser El Attiyah de Dacia. Mais c'est Hank Lategan qui prend la tête du classement général devant ce duo. Sébastien Loeb a repris 18 minutes au leader ce lundi pour s'installer à la 6e place du général avec 18 minutes 56 de retard. Donc, on rappelle qu'hier, Sébastien Loeb a connu un départ compliqué avec des problèmes de refroidissement sur son Dacia Sandrider, problème qui lui avait fait perdre 30 minutes quand même sur la tête du classement, mais voilà, il a déjà réduit la facture avec 12 minutes de gagné aujourd'hui. On poursuit ce journal des sports avec notre point hebdomadaire sur le Vendée Globe. On connaîtra dans moins de 10 jours le vainqueur de cette 10e édition. Ça va se jouer entre deux hommes, Charlie Dalin et Johan Richomme.
C'est très serré.
D'après le dernier pointage de ce matin, Johan Richomme a réduit la voilure et n'est plus qu'à 86 miles de Charlie Dalin. Après avoir franchi l'équateur, les deux skippers se dirigent maintenant vers le Cap Vert. Donc on va suivre ça de près et on vous fera connaître les résultats. En ski, repos pour les hommes ce week-end, mais retour sur l'épreuve des filles à Semmering pour la Coupe du Monde en Autriche. La Croate Zrinka Ljutic a remporté la première et la deuxième manche du slalom, une épreuve qui n'a malheureusement pas souri aux Françaises, absentes du top 15. La Suisse Rast, première au classement général de la Coupe du Monde, a finalement terminé quatrième. On passe au rugby maintenant, Philippe, et les résultats de la 14e journée de nos clubs franciliens en top 14. On commence mal l'année puisque le Racing 92 a perdu contre le RC Toulon 36-24, tout comme le Stade français qui chute lourdement à domicile contre Bordeaux-Bègles 46-19. Au classement, justement, Bordeaux-Bègles est leader devant le Stade toulousain et le RC Toulon. Le Racing est 9e et le Stade français est 13e, donc premier relégable. En basket, résultat de la 14e journée de Betclic Elite, et Nanterre revient bien après avoir mal commencé la saison. Ce week-end, les Nanterrois sont imposés 95-88 contre Strasbourg et sont remontés à la 10e place du classement. Victoire de Paris 96-88 contre Limoges en fin 2024. Et donc les Parisiens sont 3e du classement derrière Cholet et Lyon-Villeurbanne. On en parlait tout à l'heure, il y avait également de l'Euroleague cette semaine. Et un petit coup de mou pour Paris.
Quatrième défaite d'affilée.
La dernière en date, donc, c'est contre Barcelone vendredi 90-79. Malgré justement un record d'affluence, comme a dit Vanessa, 16 000 spectateurs, 16 203 spectateurs. Ouais. Malgré ça, défaite contre Barcelone. Par contre, les Monégasques, eux, sont très bien puisqu'ils sont leaders de la compétition. Et Lyon-Villeurbanne est 15e. Mmh. On passe au handball maintenant. Un récapitulatif de la 15e journée de Star League s'est déroulé avant la trêve de Noël. Le PSG avait remporté son match contre Saint-Raphaël 41-34. Créteil gagnait contre Tremblay 30-29. Et on le dit chaque semaine, mais Ivry perdait contre Dunkerque 26-22. Au classement, le PSG et Nantes se partagent la première place avec 28 points. Montpellier 3e avec 25 points. Et Créteil s'éloigne progressivement de la zone rouge et est 11e. Par contre, Ivry reste dernier avec 3 points. Là, ça sent vraiment pas bon pour Ivry. Là, ils y vont tout droit. Ouais, c'est compliqué. Ouais, ouais. Chez les femmes, ça joue ce week-end. La 8e journée de championnat et le Paris 92 a gagné 26-24 contre Sambre-Avenois. Les Parisiennes sont 4e derrière Brest, Bretagne, et Metz et Dijon. Et on termine ce journal des sports avec donc le volleyball et les résultats de la 15e journée avant la trêve hivernale. Paris remportait son match contre l'autre club de région parisienne, le Plessis-Robinson, 3-1. Au classement, les Parisiens sont 10e avec 17 points et le Plessis-Robinson est 13e et dernier avec 7 points. Pareil, ça sent mauvais pour le Plessis-Robinson. Ça va être compliqué cette année, je pense. Et chez les femmes, pareil, résultat de la 15e journée avant la trêve hivernale. Et Levallois-Paris perdait 3-2 contre le Pays d'Aix-Venelle. Au classement, Levallois-Paris est 5e à seulement 3 points des leaders Vendeuvre-Nancy.
Très bien, merci, merci Alexandre. Et je voulais simplement rappeler que le résultat du All-Star Game hein, qui s'est déroulé donc
27 décembre.
La semaine dernière, ouais. 29 décembre, 149 à 141 points après prolongation ouais. pour l'équipe donc, du monde, c'est-à-dire les joueurs qui jouent donc, dans, les, donc, ouais. dans le championnat français qui ont battu donc, l'équipe de France.
Et on va avoir rien à voir, mais on va avoir quand même une pensée pour Cyprien Sarrazin oui. qui, suite ouais. à une lourde ouais. chute, a subi
a
une opération.
Sa saison. Voilà.
Oui, terminé sa saison et pour l'instant, on est assez. Ouais. On sait pas encore ce qu'il en sera pour la suite. Ouais. On va avoir une pensée
ouais.
pour lui.
Ouais. Qu'ils se rétablissent pour les Jeux d'hiver, surtout. Allez, je voulais quand même qu'on remercie pour leur fin de carrière donc, Isabelle Yacoubou en basket, Alizé Baron en ski. Garbine Muguruza et surtout Raphaël Nadal donc, ouais. en tennis. On ne va pas oublier aussi donc, Raphaël Varane, Georges Knepp, André Iniesta en foot et puis Amandine Henry et Antoine Griezmann pour la sélection nationale ouais. et puis en handball Nicolas Karabatic, le naturellement, le célèbre duo de patinage Ciseron,
Papadakis, Ciseron, Gabriela, ouais, les champions
en patinage 2022. Artistique. Et ouais. puis en vélo, donc Lilian Calmejane, Franck Bonamour, Marc Sarraud, Marc Cavendish et Robert Urán. Tous ces sportifs et sportifs ouais. mettent un terme donc,
à leur carrière.
Ouais, à leur carrière. Et puis une pensée pour tous ceux et toutes celles qui nous ont quittés. Et malheureusement, bah, ouais, comme chaque année, il y en a René Melch, Mario Zagallo, Franz Beckenbauer, J.P.R. Williams, que des grands noms, ouais. Daniel Revenu, Jean Petit, Gigi Riva, Luis Terrada, Barry Jones, Michel Jazzy, ouais. Kelvin Ketmott, Henri Renault, Andreas Behme, Arthur George, Wilson Fittipaldi, Keith Richards, Kenjiro Shinozuka, un des anciens vainqueurs du Paris-Dakar, André Boniface, Simpson, Lucien Mias, Luis César Menotti, Michel Lory. Et puis, donc ça en fait quand même
Et on rajoute donc la, mal, ouais. la gymnaste hongroise, Code, ouais. j'espère que je n'écorche pas son nom, Code Pekki.
Ouais. Agnès ouais. Teleti.
Teleti, pardon.
Et aussi, donc, Jerry West, Eric Poujade, Jean-Pierre Huro, Raphaël Gemignani, Christian Teinturier, Marc Bourrier, Sven Goran Eriksson, Rebecca Chetegui, Johan Hilkens, Toto Skilacci, Pierre Alonso, donc Kipegang Bett, Rachid Mekloufi, oui. John Williams, Neil Fraser, Rick Van Looy, Pierre Labatte, un grand donc, entraîneur de foot, Thierry Jacob, Pascal Hervé et puis Émile Dé, mort à 104 ans. Oui. Et puis quelques confrères quand même, comme un confrère photographe Alain Landrin, Jérôme Lefauconnier, Richard Godard, pronostic olympique, et puis des célèbres confrères du passé, François Janin, Fernand Choisel, Hervé Bride, Didier Roustan, Bernard, et puis des passionnés de sport comme Bernard Pivot et Alain Delon. Voilà, voilà. Un petit mot, un petit commentaire sur cette émission de rentrée, cette émission de rétro.
Il s'est passé pas mal de choses en ouais. 2024, il y a beaucoup à dire, je pense qu'il se passera encore des choses en 2025. Ouais. Le sport, ça devient que c'est un éternel renouvellement. Il y a une continuation dans les épreuves, dans les performances. Mm-hmm. Et si ça peut rendre les gens heureux, c'est bien. C'est ce qui s'est passé à Paris 2024, même s'il n'y a pas eu de chute. Mm-hmm. Ça a été pour moi un moment plein, un moment de plénitude, de voix, de fraternité.
Voilà. Merci en tout cas donc, Pierre, hein, merci d'être venu. Merci donc à notre ami Léo pour avoir été le premier technicien de l'année. Une petite pensée pour Abou. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Oui, Vanessa.
Je voulais juste une bonne résolution pour 2025, ouais, aller dans les stades et pratiquer ouais. du sport.
Voilà. Allez, bonne soirée à toutes et à tous. On finit en musique. On laisse maintenant le témoin à notre ami donc El Hadji. Belle soirée.
De ma vie sont lisses, je m'y accroche, mais je glisse lentement vers ma destinée. Pour y arriver, tandis que le monde me juge. Sois pour moi qu'un refuge, pour d'ici m'étant condamné, pour y aimer, pour y aimer. ses problèmes. Les gens haineux face à eux-mêmes, avec leurs petites idées, mourir d'aimer, puisque notre amour ne peut.
Paris est fait.